je vais vous parler donc des Templiers hospitaliers. Alors je vis précisément à Saint-Michel et à Saint-Michel de Bormienne, bien sûr, puisque c'est un des hauts lieux de leur présence. Et puis la Croix des Belles et Sainte-Hélène du Lac. Alors c'est vrai que c'est la base morienne, on y reviendra, mais c'était, je vous l'ai dit, dans l'ancien diocèse de Morienne. Alors je ne vous parlerai pas de trésor, parce que je pense que le trésor, c'est un peu comme la fable du laboureur. Hein. Il faut continuer à chercher, mais on risque pas de trouver. Hein. Voilà. Donc c'est mon avis. Donc les ordres religieux militaires donc, sont une création qui était liée aux croisades et qui ensuite donc, ont pris place, et surtout chez vous, ici, enfin, en Morienne, principalement donc, sur les grandes routes menant à Rome et les grandes routes menant aussi à Jérusalem, en quelque sorte par la traversée ensuite de l'Italie, pour aller sur les ports des Pouilles et s'embarquer donc pour la Terre Sainte. Voilà. Alors, ce sujet nécessite de se replonger mais assez rapidement sur le contexte global. Et ensuite, donc, je parlerai plus précisément de ce qui s'est passé dans nos régions, puisque ces membres, comme on disait, appartenaient à la commanderie de Chambéry. Donc la commanderie de Chambéry était la commanderie générale. Et vous savez bien ensuite, on y reviendra très rapidement, que les Templiers n'ont eu une existence très brève, puisque c'est le concile de Vienne, hein, le Vienne sur le bord du Rhône, en 1312, donc, qui a prononcé leur suppression. Et l'ensemble de leurs biens ont été dévolus aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Rhodes, dit de Malte, l'actuel ordre de Malte. De la première croisade en 1099 et la fondation des États latins d'Orient accrurent le nombre des pèlerins visitant les lieux marqués par la vie et la mort du Christ. Cela entraîna aussi des besoins croissants, notamment militaires, pour assurer l'existence de ces États. L'hôpital, placé sous la protection du pape, est transformé en ordre religieux. La bulle du pape Pascal II est du 15 février 1113, qui fonda l'ordre de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, joignit bientôt à ses activités charitables des activités militaires à la suite de la fondation en 1120 et de la reconnaissance par l'Église au Concile de Troyes en 1129 d'un ordre spécifiquement consacré à cette tâche, l'ordre du Temple. L'histoire de l'hôpital commence avant le Temple et continue longtemps après, à Rhodes et à Malte, et se poursuit de nos jours, mais pour l'ordre de l'hôpital, cette fonction militaire n'est qu'une partie de ses activités, un ajout même à une fonction charitable et hospitalière qui constitue le fondement de son identité. Cette identité est restée fondamentalement attachée à cette fonction hospitalière originelle et à un édifice emblématique, l'hôpital, le grand hôpital qui de Jérusalem à Malte, en passant par Acre et Rhodes, a marqué la présence de l'ordre. Alors, Pierre, je vais peut-être... ces opérations. Pendant deux siècles, donc, l'hôpital a exercé ses missions dans le cadre des États latins d'Orient. Donc, vous avez là la présentation des États latins d'Orient, où il a joué avec l'ordre du Temple un rôle majeur dans leur défense. La grande forteresse du Krak des Chevaliers, vous savez, aujourd'hui située en Syrie, est admirablement conservée. Donc, c'est pas directement ici, on le verra plus tard. Atteste toujours l'importance des moyens que l'ordre pouvait consacrer à cette tâche, le Krak des Chevaliers étant une fortification donc des hospitaliers, hein, et pas des Templiers. Les Latins perdirent Jérusalem en 1187, hein, la première croisade c'était 1099, en 1187 les Latins perdirent Jérusalem, Acre évacuée la même année, mais reconquise en 1191 devint la capitale d'un royaume de Jérusalem sans Jérusalem. L'histoire de l'hôpital ne s'est pas arrêtée à la chute d'Acre en 1291 et à la disparition des États latins de Syrie et Palestine. Les Latins se sont alors oubliés sur le royaume de Chypre, les ordres militaires du Temple et de l'hôpital aussi. Mais alors que les Templiers connurent le sort tragique que l'on sait, ce dont profita l'hôpital qui récupéra leurs biens, les hospitaliers réussirent une véritable reconversion en s'établissant sur l'île grecque de Rhodes en 1309-1310 et durent s'adapter à un nouveau champ de bataille, la mer, et à un contexte militaire différent où les Turcs devinrent leurs principaux adversaires. Contre toute attente, la perte de Rhodes en 1522 et le contexte méditerranéen du XVIe siècle offrirent à l'ordre un second souffle. L'union politique et religieuse des villes chrétiennes et musulmanes, sous l'égide chacune d'un empire à vocation universelle, espagnol pour l'une, ottoman pour l'autre, réactiva longuement, brusquement en Méditerranée, la frontière entre la chrétienté et l'islam. Dans ce renouveau de guerre sainte, l'ordre reprit toute sa place en prenant possession de Malte en 1530. Inféodé au roi d'Espagne, repoussé contre son gré vers l'ouest du bassin maritime, où se cristallisait l'affrontement entre Espagnols et Barbares, eut lieu de tous les combats navals, de toutes les politiques et polices maritimes, de toutes les entreprises corsaires au service de la monarchie catholique, comme en son nom propre, puisque la lutte continua de l'infidèle constituait le cinquième vœu des frères. Son investissement guerrier permanent en fit d'abord la cible des musulmans qui l'attaquèrent frontalement par deux fois en 1551 et en 1565, avant d'en faire passer victoire en 1565, le rempart humain de la chrétienté, suzerain d'une île qui devint par ses fortifications portuaires et sa capitale, la Valette, je parle de mal bien sûr, l'incarnation de la frontière chrétienne. L'ordre de l'hôpital assura sa double mission hospitalière et militaire grâce à de puissants réseaux de maisons et de provinces qu'il constitua en Occident, principalement en France, en Italie, en Espagne, mais aussi en Allemagne et en Angleterre, à partir des nombreuses donations qu'il avait reçues de la part des fidèles de toute qualité, mais initialement surtout des princes, des évêques et des hauts vassaux. Ces maisons se regroupèrent plus ou moins rapidement au niveau local en commanderies, composées d'une maison chef-lieu donnant son nom à la commanderie et de plusieurs maisons dépendantes appelées membres. Au niveau régional, les commanderies se groupèrent en prieurés. Et au début du XIVe siècle, l'ordre éclata en 7 nations ou langues, par ordre d'ancienneté, Provence, Auvergne, France, Italie, Espagne, Angleterre et Allemagne, puis en 8, en 1462, la division de la langue d'Espagne, en 2, celle de Castille et d'Aragon. Chaque langue groupait plusieurs prieurés, ainsi la langue de France se partageait entre 3 prieurés, France, Limousin et Champagne, celle de Provence en 2 prieurés, Saint-Gilles et de Toulouse, et celle d'Auvergne n'en possédait qu'un, du même nom. Avec l'héritage templier, les commanderies de l'ordre ont atteint le nombre de 700 commanderies environ. Donc je parle là du 14e, 15e siècle. Ainsi, la commanderie de Chambéry, on va rentrer dans le vif du sujet plus près de chez nous, avec les deux autres commanderies savoyardes des Échelles et de Compossière, c'est-à-dire de la commanderie du Genevois, dépendait du grand prieuré d'Auvergne, qui constituait la langue d'Auvergne. Alors là, je vous fais passer, c'était des photos et des représentations donc du temple de Jérusalem, toujours les états latins. Là, vous avez le krach des chevaliers en Syrie, hein, une fortification splendide donc qui était des hospitaliers. Voilà. Donc, et ensuite, vous avez une présentation un peu plus large, à la fois de l'île de Rhodes et voilà, et ensuite de Malte. Voilà, vous avez la présentation de Rhodes. C'est tout à fait gigantesque. Voilà, avec ses représentations, voilà. Il faut savoir que le siège des ordres militaires religieux, donc les Templiers, puis ensuite les Hospitaliers, ont toujours été donc soit en Terre Sainte, soit lorsqu'ils ont dû quitter la Terre Sainte, Chypre, mais très peu de temps. Et comme je vous le disais ensuite, donc l'ordre des Hospitaliers est resté à Rhodes à partir de 1309, 1310, jusqu'en 1525. Où les Turcs les ont boutés hors de Rhodes, et finalement ils ont retrouvé, grâce à l'empereur d'Espagne, qui a mis à leur disposition l'île de Malte. Voilà l'histoire hein, qui s'est poursuivie, et ensuite l'île de Malte, c'est Bonaparte qui, lors de son expédition d'Égypte, en passant, les a mis complètement hors. Et c'était déjà quelque chose qui n'avait plus rien à voir avec ce dont on parle maintenant, puisque l'idée de croisade au XVIIIe était bien valide. Voilà. Donc c'est simplement ici pour vous préciser, parce que on va y venir, et là vous avez une présentation de l'île de Malte, donc C'est pour vous resituer, parce que les ordres militaires religieux, quand on les étudie ici en France, et ailleurs, enfin en Occident, on a une vision de commanderie et de différentes dispositions qui sont des sortes de seigneuries et des exploitations. Mais ces exploitations, elles avaient un but ultime, c'était fournir des moyens aux combattants de combattre justement en Terre Sainte, et ensuite à Rhodes et à Malte, les infidèles, entre guillemets, et il s'agissait donc d'envoyer en permanence des armes, des munitions, des chevaux. Et il y avait donc tout un ensemble de relations, et il fallait des fonds, bien sûr, et tous ces fonds des commanderies occidentales servaient donc pour la guerre en Terre Sainte, puis à Rhodes et à Malte. Alors, tout le fonctionnement de l'ordre vous est donc sur ce type de relation. Tel véritable immense, donc, du 12e au 18e siècle, dans lequel s'inscrit l'histoire de la commanderie de Chambéry. D'autant que sur le plan religieux, la création des ordres religieux militaires représente une rupture sans précédent. Des hybrides, je cite, des monstres vivant comme des moines, sans pourtant en être tout à fait, agissant comme des chevaliers, non pas à l'image de ceux du siècle, mais des chevaliers du Christ, revêtus de l'armure de fer et de l'armure de la foi. C'est simplement pour, au XIIe siècle, faire sentir que l'irruption de ces moines soldats a été une révolution, en quelque sorte, hein, puisque par définition, des moines qui portent l'arme et qui combattent, c'est pour des religieux une gymnastique qui était compliquée, mais qui rentrait dans les guerres sacrées donc instituées par les papes à cette époque. Les ordres religieux militaires, donc, en Savoie, ont été relativement peu étudiés, mais donc, il faut savoir c'est que les archives de l'ordre de Malte, aujourd'hui, sont tout à fait considérables et elles sont aux archives départementales du Rhône, dont elles constituent le plus grand fonds. On va y revenir, parce que on dépendait donc ici de la, je vous le disais, de la langue d'Auvergne, et cette langue était une très grande étendue qui allait pratiquement de... Voilà. Ici, vous avez une représentation, voilà. Vous avez devant vous ce qu'on appelait la langue d'Auvergne, c'est-à-dire une circonscription donc des hospitaliers, hein, qui regroupait donc, et que vous voyez, qui va de l'Angoumois, c'est-à-dire pratiquement de la Charente, à la Suisse, et qui va de la Franche-Comté au Dauphiné. Et on faisait partie de cette entité avec un grand prieur d'Auvergne, qui ensuite était à Lyon. Chacun et chacune des commanderies donc, dépendait d'un prieuré et faisait remonter ses ressources. Et ensuite, c'est au niveau d'un grand prieuré comme ceci que l'ensemble des biens se transmettait sur la Terre Sainte ou sur Malte et Rhodes ou par exemple. Et parallèlement, voilà, depuis une trentaine d'années, si vous voulez, les historiens, alors c'est vrai que tout ça a été déformé, mais ces archives sont colossales. Alors elles sont extrêmement colossales puisque tout un ensemble de comptes depuis le XVIe siècle sont conservés. Donc, je dirais, vous voulez vous intéresser, on y reviendra, on en parlait tout à l'heure avec M. Desquiers, sur l'histoire de Saint-Michel, il ne faut pas oublier que les archives donc, de l'ordre de Malte, qui se trouvent donc aux archives départementales du Rhône, détiennent donc tout un ensemble de documentation sur notamment le petit membre de Saint-Michel, qui était le membre de la commanderie de Chambéry. Et on trouve énormément de choses, puisque chaque, très fréquemment, si vous voulez, les commandeurs étaient, entre guillemets, visités, inspectés. Et tout ça faisait l'objet de procès-verbaux. Et ces procès-verbaux, on les conserve quasiment depuis 1600, 1606, si vous voulez, jusqu'à la Révolution. Et donc, les procès-verbaux de visite. Et lorsqu'il s'agissait de faire la visite de la commanderie, par exemple, de Chambéry, il y avait un visiteur qui venait et qui faisait et qui passait. Et vous verrez, parce que la commanderie de Chambéry donc, était étendue sur 6 diocèses, c'était gigantesque, et visitait chaque fois en se faisant présenter l'ensemble des biens conservés par chacun des membres de la commanderie. Donc, voilà. Et la recherche historique a longtemps été mal considérée. On a considéré que s'intéresser aux Templiers, aux Hospitaliers, c'était comme vous le savez bien, vous avez une émission pratiquement toutes les semaines à la télévision qui vous parle des Templiers, avec les pires abominations. Il y en a certaines qui sont excellentes, mais qui généralement s'évacuent, on vous parle de la franc-maçonnerie, on vous parle de tout un ensemble de choses, on vous parle des trésors qu'on recherche, mais on ne rend pas compte du tout de l'ensemble de la réalité de ce que représentait cette institution. Alors, c'est vrai que ça peut paraître compliqué, mais je vais vous la développer. Et ce qui fait que les chercheurs et les historiens médiévistes, professionnels, qui ont voulu s'intéresser à ça, longtemps été considérés par leurs collègues comme presque des supplétifs s'intéressant à des trésors. Là aussi, même, vous voyez, dans la recherche scientifique, on avait tendance à mal les considérer. Or, depuis 30 à 40 ans, ça a complètement changé. Les travaux ont été très très avancés, des recherches considérables ont été faites, pratiquement une grosse synthèse est arrivée ici. C'est un livre, donc, un dictionnaire européen des ordres militaires du Moyen-Âge, si vous voulez, donc, qui est paru donc, il n'y a pas très longtemps, et qui fait le point sur tous les travaux les plus récents dans tous les domaines. Voilà. Alors, je vais donc vous parler, avant d'aborder directement la Maurienne, de vous présenter rapidement la commanderie de Chambéry, qu'on appelait la commanderie de Saint-Jean du Temple de Chambéry. Alors le terme de commanderie est complexe, mouvant tout au long des 12e et 13e siècles, pour ne se fixer guère qu'au 14e siècle, et souvent utilisé à tort et à travers pour désigner n'importe quelle maison d'un ordre. Il est en réalité le fruit du développement des ordres religieux militaires. Ces derniers sont nés de la croisade en Terre Sainte, mais aussi de l'évolution de la société occidentale, qui encouragea cette expérience neuve et originale d'un institut religieux associant les vieux du moine et l'engagement militaire du chevalier. De la protection des pèlerins à la défense de la Terre Sainte, ils ont incarné la permanence de la croisade dans son idéal originel, je cite donc, de pèlerinage armé ayant valeur de pénitence. Et se sont ainsi attirés un soutien ample et continu des fidèles, qui s'est matérialisé par d'innombrables donations, tant de biens immobiliers, des maisons, moulins, redevances, jardins, enfin églises, que mobiliers, donc des revenus de droits seigneuriaux et féodaux, des rentes, des redevances, des dîmes. Non seulement tous ceux qui entraient au temple ou à l'hôpital et qui s'y associaient leur ont consenti des donations, mais nombre de laïcs et de clercs leur donnèrent sans se lier à eux, tout simplement parce que c'était faire là une œuvre pieuse dont l'efficacité pouvait sembler d'autant plus grande que les frères, à la différence des moines ou des chanoines, luttaient contre les infidèles et donnaient leur vie pour défendre le royaume du Christ au XIIe siècle. L'engouement donc pour les ordres religieux à cette époque-là a été très grand et ils ont donc bénéficié de donations considérables. Toutes les qualités de fidèles ont donné, mais initialement surtout les princes, les évêques et hauts vassaux. Ainsi, pour venir plus près de chez nous, dès le 30 janvier 1132, à peine 3 ans après le concile de Troyes qui consacre l'ordre du Temple, Guigues, comte Dauphin, le comte Dauphin, avec l'approbation de son père, Guigues, comte d'Albon, de sa mère Mathilde, comtesse, et de son épouse, comtesse, sœur de Guillaume, comte de Bourgogne, donne à la milice du temple de Salomon à Jérusalem et aux chevaliers défenseurs de la chrétienté le manse d'Auxerre, de Villars-Benoît au territoire d'Avalon, la contamine de Villary-Réhénereau et la ville de Villars-Néry, scellant la fondation du temple d'Avalon, mandement du château d'Avalon, paroisse de Villars-Benoît, qui deviendra Pontcharrat sous Bréda, diocèse de Grenoble. En 1142-1149, c'est Guillaume, évêque de Belley, et son chapitre qui concède aux frères de la milice du Temple un vaste domaine avec dîmes à Aquayeux, près de Belley, au bord du Rhône, paroisse de Provence, qui formera la maison du Temple d'Aquayeux. Donc les donations ont décru à partir de la première moitié du XIIIe siècle, mais n'ont pas disparu. En 1212, Jean d'Avalon, neveu de Saint-Dumont d'Avalon, ayant pris la croix au temple d'Avalon et avant de partir en Espagne, fait des dons à la chartreuse de Saint-Dumont. Il y a donc tout un ensemble de dons qui se sont faits. Le 6 novembre 1260, c'est un personnage très considérable qui fait une donation d'exception, Béatrice de Savoie, veuve de Raymond Béranger, comte de Provence, sœur du comte Pierre de Savoie, donne et abandonne à l'hôpital Saint-Jean de Jérusalem le château des Échelles, avec juridiction et toute dépendance, afin que, au lieu susdit, je cite, soit bâtie une maison et une église, domus et ecclesia, où demeure et soit entretenu par le dit hôpital 13 prêtres, 2 diacres et 3 clercs qui serviront continuellement et à perpétuité le Seigneur au service divin. Enfin, dernier exemple de donation tiré des preuves de noblesse de Jean-Louis de Beaufort. Du 2 juin 1575, où plusieurs témoins interrogés rappellent le testament de noble Guillaume de Beaufort en date de l'an 1270, indiction 13e, le 20e des Ides du mois d'avril, par lequel ce dernier donnait au commandeur de la commanderie de Savoie plusieurs biens, rentes et servis à l'audio à l'hôpital de Conflans, desquels biens le sieur commandeur en jouit encore. Donc c'est pour vous donner des exemples de donations qui ont été faites à la fois par des grands princes, mais aussi par des seigneurs plus petits, et qui ont donné donc à l'ordre soit du temple, soit de l'hôpital. Alors il est vite apparu nécessaire d'organiser territorialement toutes ces donations de biens et droits auxquels s'ajoutaient rapidement les acquisitions, les échanges, d'où la structuration locale en commanderie, d'autant que la raison d'être même des ordres, c'est-à-dire le secours à la Terre Sainte, imposait de transférer le plus régulièrement possible d'importants moyens en Orient, vivres, armes, chevaux et numéraires. Je cite à des rythmes différents selon les institutions, la commanderie est progressivement devenue, à partir de la seconde moitié du XIIe siècle, l'échelon de base d'une organisation à trois paliers, dont la finalité était de drainer vers le centre, à travers un niveau intermédiaire, les ressources qui permettaient aux milices de satisfaire leur mission. Alors la structure de base, le lieu de vie d'une communauté d'hospitaliers ou de templiers, est la maison Domus, terme latin, omniprésent dans la documentation, qui comprend des bâtiments d'habitation et d'exploitation, ainsi qu'une chapelle et souvent un cimetière. Une commanderie, à l'époque on l'appelle plutôt une préceptoria, est une structure d'encadrement, une circonscription qui peut comprendre une ou plusieurs maisons. Une maison avec une chapelle peut constituer à elle seule une commanderie, mais le plus souvent une commanderie comprend plusieurs maisons. La maison chef-lieu, appelée commanderie, donnant son nom à l'ensemble des maisons dépendantes, jusqu'à une dizaine de membres dépendants qui s'appellent membres, jusqu'à une dizaine pour les plus basses, appelées membres à partir du XIIIe siècle. Par exemple, la commanderie de Chambéry, on va le voir tout de suite. Le chef, comme on disait, c'était Chambéry. Et il y avait 9 membres, distants sur 6 diocèses. Là, vous avez une présentation. Voilà. Et on revient, mais ça va être plus. On revient, mais ça va être plus clair. Voilà. On revient donc à notre présentation de la commanderie de Chambéry. Je ne sais pas si c'est plus net. Vous avez le triangle rouge, c'est la commanderie de Chambéry. Et les différents traits qui partent constituent les membres dépendants de cette commanderie. Donc pour la Maurienne, vous avez Saint-Michel de Maurienne, vous avez le Touvet, Saint-Hélène-du-Lac, et vous avez Aiguël. Ça ne pose pas de problème? Non, vous voyez pas bien? Si. Voilà. Et puis, donc, vous avez aussi, la commanderie des échelles, c'est autre chose. Vous avez complètement en haut, à gauche, Aquayeux, dont je vous parlais, donc c'est dans le Bugey, au bord du Rhône, qui dépendait de Chambéry. Et vous avez l'hôpital sous Conflans, puisque vous voyez Albertville, qui est la réunion de Conflans et de la ville basse qui s'appelait l'hôpital. Et pourquoi la ville s'appelait l'hôpital? Parce que donc les hospitaliers, au XIIe siècle, ont créé un hôpital au sens d'accueil des pèlerins sur le Chaudan, donc dominant l'Arly, si vous voulez, en-dessus de l'hôtel Mignon, vous voyez ce que je veux dire. Et pour éviter la rivière, l'Arly qui débordait en permanence, et ont créé un hospice. Et c'est cet hospice qui, petit à petit, a été à l'origine de la ville de l'hôpital, qui s'est agglutinée à côté de la chapelle et de l'hospice, et qui, petit à petit, a grandi et est descendu. Et donc, s'est développé simplement à partir du XVIIIe siècle, véritablement de manière importante, et qu'ensuite le roi Charles-Albert de Piémont-Sardaigne a réuni avec Conflans l'hôpital, et c'est devenu Albertville. Mais le nom de l'hôpital traduit bien donc la présence des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, puisqu'on était là, non pas sur la route du Mont-Cenis, évidemment, mais sur la route du Petit Saint-Bernard, à la voie romaine. Qui remontait ensuite Moutier, M, et ensuite le petit Saint-Bernard, pour bien sûr descendre sur le Val d'Aoste et rejoindre ensuite l'Italie. Donc l'hôpital était un des membres de la commanderie de Chambéry. Et puis il y avait encore d'autres membres qui étaient plus loin dans le diocèse de Sion et le diocèse d'Aoste. Et on avait aussi un membre donc, dans le diocèse de Grenoble, donc qui était en contrebas. Voilà. Donc je vais vous rentrer dans le vif du sujet. Les structurations définitives de tous ces membres, de toutes ces commanderies, de ces organisations, a dû se réaliser dans la première moitié du XIVe siècle, après la dévolution des maisons templières résultant du Concile de Vienne. Je vous ai dit tout à l'heure donc que vous savez le roi de France Philippe le Bel, qui avait un gros contentieux à régler avec le pape, je dirais lui a presque créé un procès à la Poutine, donc en chargeant un maximum l'ordre de des pires excès de manière à et ça aboutit effectivement à la suppression par le pape de l'ordre des Templiers et la dévolution des biens des Templiers aux hospitaliers. Et tout ça, c'est arrivé en 1312. C'était donc le concile de Vienne. Alors je vous l'ai fait très 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 rapide, mais ce qui a clos la vie proprement parlée de l'ordre des Templiers. Et on est toujours donc il y a d'excellentes émissions. Vous avez vu les films à l'époque qui étaient représentés et tout ça. Et si vous voulez, l'ensemble des biens des Templiers donc ont été dévolus aux hospitaliers. Donc ça c'est en 1312 et on va le voir d'ailleurs très bien tout à l'heure à Saint-Michel de Maurienne, puisque donc à Saint-Michel étaient implantés les Templiers et qu'en 1308 si vous voulez la suppression ou le transfert de ces biens. L'abbé Félix Bernard, qui était un excellent chercheur, dans ses analyses des comptes de la châtellenie de Montbéliard, mais j'y reviendrai après, rappelle que le châtelain de Montbéliard, bailli de Savoie, a fait, dans l'été 1308, 34 livres de dépenses pour séquestrer les maisons, je cite, les maisons du temple de Chambéry, de Saint-Michel de Maurienne et de Chamousset, c'est-à-dire de Saint-Hélène-du-Lac, pour arrêter et garder pendant 15 semaines et plus quelques templiers des petites maisons. Vous savez que Philippe le Bel, de son côté, avait fait saisir sur tout le royaume de France, le même jour, en 1307, l'ensemble des commanderies de templiers, et qu'ensuite il a forcé en quelque sorte le pape, Clément V, donc, à lui aussi demander à ce que les biens des templiers soient saisis, mais le pape, pour reprendre la main, puisque ça c'était une initiative royale, pour reprendre la main pontificale, a lui aussi rentré dans ce sujet. Tout ça, c'était la procédure que je viens de vous décrire, qui a mené de 1307 jusqu'en 1312 la suppression des Templiers. Et vous savez, en 1314, Jacques de Molay, donc, qui a brûlé sur la cité. Le débat des Templiers, c'est pour ça qu'on en parle, parce que les recherches ont été très compliquées. On a eu tout un ensemble d'interrogatoires qui étaient soumis à la torture. On leur a extirpé, puisqu'on leur reprochait de l'idolâtrie, sans parler de fornication, sans parler de tout un ensemble de choses. Et donc, il y a pu avoir quelques excès, mais l'ordre n'était pas. Recherche actuelle prouve que l'ordre n'était pas à ce point. Mais le pape a été contraint par le roi de France donc, de supprimer les Templiers sur l'autel. Donc là, on est dans une évolution, vous savez, où il s'agissait pour les royaumes de reconquérir une position et de placer le pape plus en bas, surtout le roi de France, considérant donc, qu'il était directement donc, fils aîné de l'Église et directement de Dieu sans intermédiaire du pape. Donc c'était tout un ensemble de relations. Alors, on le verra tout à l'heure, en 1308, donc, le comte de Savoie a fait saisir, sur ordre du pape, les Templiers, les membres, et ne sont cités ici donc que trois maisons, hein, vous avez bien compris, trois maisons, Saint-Michel, Le Touvet et de Chambéry. Voilà. Alors ces indications sont très précieuses pour tenter de démêler les origines templières ou hospitalières des maisons. Mais l'ossature templière de la commanderie de Chambéry s'affirme très marquée sur les neuf membres qui la composent et qui couvrent un territoire exceptionnel étendu de six diocèses. Au moins cinq sont d'origine templière. Donc, les origines templières, donc il y a Alvar, donc pour Clara, on parlait tout à l'heure, diocèse de Grenoble, Accoyeux, diocèse de Belley, Le Touvet à Saint-Hélène-du-Lac, diocèse de Maurienne, la Vraie Croix d'Aiguebelle, diocèse de Maurienne, le Temple de Saint-Michel de Maurienne, diocèse de Maurienne, et les quatre autres sont d'origine hospitalière, c'est l'hôpital sous Conflans, donc diocèse de Tarentaise, Saint-Quenen et le Saint-Plon, diocèse de Sion, puisque la commanderie de Chambéry avait aussi un membre qui détenait pratiquement le passage du Saint-Plon. C'est extrêmement intéressant, c'est très peu connu. Et à cette époque-là, donc, ça même dépendait de du membre de l'hôpital sous Conflans. Enfin, il y avait une autre commanderie à Saint-Jean-de-Romoran, donc en diocèse d'Aoste. On ne sait pas trop où c'est, d'ailleurs, je ne l'ai pas retrouvé. Et on a une commanderie qui était un membre, qui est le Mésage, donc dans la Romanche, diocèse de Grenoble. Voilà. Alors, pour vous brosser la situation, voilà, vous avez la vue quand même peut-être plus satisfaisante, hein, ici. Et vous avez la Corbière. Alors la Corbière, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, figurée de la Corbière donc à Saint-Pierre de Belleville, qui est un point noir ici, et ce serait dans la documentation j'ai pas trouvé du tout de mention de la Corbière, hein. Mais dans vos travaux de Maurienne, il est après le passage de la Novalaise, et les restes qui se trouvent encore quelques restes donc du prieuré de la Corbière, quelques éléments, hein. Je crois qu'aujourd'hui c'est sur la centrale, ça correspond pratiquement sur la centrale électrique de Saint-Pierre. La Corbière donc a été considérée après la Novalaise, pendant un certain temps, une dépendance templière. Alors c'est vrai que la Corbière est bien passée, puisque c'est le débouché du Cucheron, hein, sur directement la voie venant soit du Dauphiné, soit de Chambéry, et par le Cucheron, et qui reprenait donc sur les pierres, et qui ensuite remontait. Voilà. Le point noir ici, ça c'est tiré des cartes, sont tirées de l'Atlas historique, hein, de Savoie. La Corbière, il est précisé que c'est a priori une maison, puisque vous avez, j'ai vu dans 1000 ans d'histoire que je ne connaissais pas, il y a une petite cloche de 42 cm de haut, je n'ai pas pris en photo ici, hein, qui représente une cloche de fer très ancienne, avec un élément templier, une croix pâtée templière, qui est conservée, je crois, je sais pas si elle est toujours à la mairie de... Elle est à la mairie, c'est ça ?
Elle est à la mairie, on la voit dehors.
Hein, voilà. Alors, je ne vais pas représenter ici, mais donc, et on dit que c'est une croix, on dit que c'est une cloche de commanderie templier. Il n'y a pas de raison. J'ai pas bien remarqué la croix, mais apparemment c'est une croix pâtée, une petite croix pâtée qui correspond.
C'est un taux. C'est vraiment le taux sur la croix.
Ah, c'est un taux
sur la cloche.
Oui, mais alors un taux, est-ce que ce ne serait pas plutôt Antonin? Parce que...
J'ai fait un petit article dans un patrimoine de la Maurienne il y a quelques temps.
Et vous concluez quoi?
Ben, je ne conclue pas, je dis simplement on a le taux.
Voilà. D'accord. En tous les cas, dans l'ensemble des travaux, notamment sur la Maurienne, C'est indiqué comme une dépendance après la Novalaise, une dépendance pendant quelque temps des Templiers. Mais ce qui est certain, c'est que le point qui est là représenté à l'Atlas signifie que les Hospitaliers, qui en général reprenaient les maisons templières, ils étaient dévolus aux Hospitaliers. C'est une maison qui n'a pas été reprise. Alors soit elle était déjà tombée, soit elle n'existait pas, soit, à mon avis, je ne sais pas si on arrivera un jour à avoir des précisions plus grandes là-dessus, mais s'y explique la présence de la Corbière. Alors, avant de venir à ces possessions morianaises, je vais vous présenter quand même le chef, c'est-à-dire Chambéry. Alors, Besson, en 1759, dans sa description de Chambéry, capitale de la Savoie, précise, entre quelques chapelles particulières qu'on y trouve, celle de Saint-Jean du Temple était anciennement des dépendances de l'ordre des Templiers, et depuis sa suppression, elle fut réunie à celui de Saint-Jean de Jérusalem. En fait, il semble que les deux ordres étaient déjà présents à Chambéry depuis la fin du XIIe siècle, de même que l'ordre hospitalier de Saint-Antoine de Viennois, dont on parlait à l'instant. C'est précisément à l'occasion d'un accord de 1229 entre les Antonins et le prieur de Lémin, qui est curé primitif de Chambéry, qui est confirmée la présence des deux ordres. Le prieur de Lémin enjoignait aux Antonins que le nombre de cloches de leur chapelle ne devra jamais excéder celui des cloches des chapelles du temple et de l'hôpital. Vous voyez comme quoi on arrive à avoir par bribes la présence affirmée donc en 1219 de à la fois les trois ordres, les Templiers, les Hospitaliers et les Antonins. Alors les Templiers ont leur maison et leur chapelle, la chapelle du temple. Ça, c'est le diocèse de Genève, mais ça nous intéresse moins. Je reviens ici. Là, tout à l'heure, là, c'est le diocèse d'Arles, c'est le diocèse de Sion. Donc, voilà, c'était pour les autres membres. Diocèse d'Arles. Donc, voilà. Donc, vous avez la représentation de Chambéry, médiéval. De Chambéry. Vous avez les limites de la première enceinte et ensuite le grand noir, c'est la limite de la deuxième enceinte. Les Templiers ont leur maison et leur chapelle, la chapelle du Temple, quartier du Reclus, vers le musée des Beaux-Arts. Vous voyez donc Saint-Jean du Temple. Saint-Jean du Temple, vers le musée des Beaux-Arts, donc actuel, en aval de la Lesse, au-delà de la première enceinte c'est celle qui apparaît en petit trait, ici, autour de la place Saint-Léger, définissant à l'arrière de leur maison la tour du Temple, la poterne du Temple, qui était murée en 1375. Ainsi, en octobre 1234, le prieur de la Chartreuse d'Aillon passe un acte notarié, je cite, devant l'église des Templiers, hanté ecclésial par lui. Les Hospitaliers, quant à eux, sont à l'opposé, vers l'Albane, donc à droite, près de à l'arrière de la rue Croix d'Or, et l'église est ici sur la droite, près de la rue de Roche, appelée alors Saint-Jean-du-Pré, du nom de leur chapelle, sur le tracé de la deuxième enceinte qui entraînera la démolition. Vous voyez, aussi bien templiers que hospitaliers, donc sont à la limite de la deuxième enceinte. Après la suppression des templiers, les hospitaliers se replièrent sur la chapelle du temple et abandonnèrent leur chapelle de Saint-Jean-du-Pré, donnant naissance à la commanderie de Saint-Jean du Temple de Chambéry. Il y a eu une fusion, hein, et ils se sont repliés, non pas, ils se sont repliés sur Saint-Jean du Temple, donc vers les Beaux-Arts. Il ne semble pas que les immeubles du chef de la commanderie aient jamais constitué un ensemble imposant. Les sources manquent. Aucun acte de donation. André Perrin, qui, au début du XXe siècle, qui a scruté les comptes des syndics de Chambéry, relève en 1382 la construction d'une petite maison à l'entrée de la commanderie, qui, du fait de la résidence des commandeurs à Accoyeux à partir du XVIe siècle, sera peu à peu délaissée. Alberger, la résidence des commandeurs, voilà. Sera peu à peu délaissé, albergé que ça couvre en 1579, puis finalement vendu aux héritiers de l'albergataire en 1641. Si bien que lors de la visite du 24 octobre 1641, il n'est question que de la chapelle du chef de la commanderie de Chambéry, dédiée sous le titre de Monsieur Saint-Jean-Baptiste, notre patron. Et le Théâtrum Sabaudier en 1682, date de la description de la ville de Chambéry, indique, je cite, « L'église des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ne subsiste plus aujourd'hui. Il n'y a qu'une certaine chapelle du même nom sous le titre de commanderie. » Voilà. Alors, les visites priorales, ces inspections plus ou moins régulières des commanderies, essentiellement à la période moderne, de 1614 à 1789, pour le grand prieuré d'Auvergne, constituent une source privilégiée de connaissance de l'état des commanderies. L'initiative des visites revenait au grand prieur d'Auvergne, qui pouvait en assurer lui-même en propre personne, mais généralement désigné par commission des visiteurs généraux pour le faire. Voilà, donne toute juridiction. Voilà. Alors, voilà, le but de ces visites, c'est, ça permettait donc de relever complètement l'ensemble des... Voilà, vous avez Saint-Jean-du-Temps. Voilà, et Saint-Jean-du-Pré qui est ici. Voilà. Là, on reviendra tout à l'heure, ça c'est le riche compte de saisie des biens à Saint-Michel de Maurienne en 1308. Donc je reviens simplement à ces visites priorales qui sont une des sources importantes de connaissance de l'ensemble des sites. Elles étaient décidées par le grand prieur et un chevalier arrivait, commandeur arrivait à la commanderie. Assisté d'un notaire et donc devait relever et rendre un rapport sur l'ensemble des biens et voilà je cite privilèges et voilà soins aux choses spirituelles et temporelles dans les bornes et limites de notre grand prieuré d'Auvergne pour aller de 5 ans en 5 ans plus tôt s'il t'a requiert visiter tous les bailliages, commanderies, banques, hôpitaux, églises, chapelles, oratoires et à notre juridiction, enfin, corriger, ordonner et remédier les excès. Alors, munis de leur commission, les visiteurs, en général un chevalier commandeur et un chapelain de l'ordre, ou un clerc, accompagné d'un scribe notaire, se présentaient au chef de la commanderie, où ils étaient reçus par le commandeur, ou en cas d'absence par son fermier général, à qui ils enjoignaient, sur serment, de, je cite, leur montrer, déclarer, spécifier, conduire et faire voir et visiter toute la commanderie du dit Chambéry, chef, annexe et dépendance, et en quoi le tout consiste, tant en général qu'en particulier. Puis la visite commençait, au chef d'abord, et successivement dans chacun des membres. Ainsi donc, pour vous donner un exemple, en 1641, la visite débuta par Chambéry. Le 24 octobre, se poursuivit par le Touvet, la Croix des Belles, le Temple de Saint-Michel, l'hôpital de Saint-Jean de Sous-Conflans, Alvar, pour se terminer par Accoyeux, donc le bord du Rhône, le 29 octobre. Vous voyez, ils ont abattu la visite en 5 jours, quasiment. Les membres du Valais, du Val d'Ost et de Bézage, dont je vous parlais tout à l'heure, n'ayant pas pu être visités, je cite, à cause des guerres. C'est vrai qu'on était en plein dans les guerres, donc 1630-1640, avec la France. Voilà. Selon un rituel éprouvé, donc l'objet c'était en premier lieu, nous commencerons notre visite par les choses sacrées et cultes divins qui se doit faire dans nos églises afin de savoir si elles sont bien et dûment tenues, ornées et pourvues de bons et vigilants vicaires perpétuels, chapelains, ainsi qu'il convient, aussi bien que les reliques, reliquaires d'or, d'argent, ciboire, calice, fonds baptismaux, livres de chant, ornements d'église, maisons curiales et revenus des vicaires. Nous continuerons à faire la perquisition des vies et mœurs des dix vicaires perpétuels et autres agents fermiers, officiers et autres fruits de la commanderie, et finalement de tous les domaines en général et en particulier, ainsi que de tous les papiers et titres de toutes lesquelles choses nous dresserons procès-verbal pour l'entière décharge de notre conscience et de notre commission. Donc vous voyez, le circuit et les travaux, s'ils étaient faits, et s'ils étaient généralement faits correctement, constituent quelque chose d'important. Le procès-verbal de visite contenait également, enfin, un état des revenus et un état des charges et responsions, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, chacune des commanderies devait verser au grand prieuré pratiquement 30 à 40% de ses revenus qui avaient vocation à repartir en Terre Sainte ou de repartir donc à Rhodes, puis à Malte, pour faire tourner les affaires et les opérations de guerre. Voilà. Donc, les responsions de faire ressortir les valeurs ou la valeur de la commanderie est conjurée par l'ordonnance faite au commandeur d'exécuter les dispositions énoncées par les visiteurs pour l'utilité de la dite commanderie sous les peines portées par les statuts. Alors, on mesure la richesse d'informations hein, de ces procès-verbaux denses et volumineux. Ils ont souvent entre 12 et 25 feuillets chacun. 10 visites générales ont concerné la commanderie de Chambéry entre 1714 et 1772. Seul le procès-verbal de la première visite de 1614 manque. Les autres concernent les visites de 1641, 1652, 1685, 1698, 1724, 1735, 1743, 1753 et 1772. Ils figurent tous dans les archives, donc aux archives départementales du Rhône. Il convient de souligner qu'il existait un autre type de visite, mais à la demande expresse d'un commandeur, les visites dites d'amélioration. Si un commandeur apportait des améliorations importantes à sa commanderie, il pouvait demander à faire constater par une visite spécifique. Voilà, dans l'espoir d'avoir un avancement. Voilà. Alors, au XVIIe siècle, la chapelle de la commanderie, donc au quartier du Reclus, à Chambéry, auprès des Jésuites, est un bâtiment d'une quinzaine de mètres de long, quatre de large, nef en planche, marron, mais voûté de cœur, couvert d'ardoises, avec une petite cloche et deux clochers. L'ordre continue à entretenir un prêtre chargé de la desservir, et à partir de 1717, la chapelle est remise aux pénitents blancs. L'ordre conserve le droit de nomination du recteur, et puis disparaîtra. Donc vous voyez, n'importe comment, à partir du XVIe siècle, et du XVIIe et du XVIIIe, l'ordre de Malte, l'idée de croisade, n'a plus de correspondance, les commanderies sont essentiellement des possessions importantes seigneuriales. Et parmi les éléments seigneuriaux, donc, du chef de Chambéry dépendaient les rentes féodales à Chambéry même, notamment au faubourg Maché, à Chambéry-le-Vieux et dans les environs. Elles avaient des rentes donc à Bissy, c'est-à-dire des centres, c'est un des revenus, Montagnole, Barbera, La Motte de Montfort, Motte-Servolex, Saint-Sulpice, ainsi dans les mandements d'Aix, Grésy et Le Moncel. Voilà. Donc, c'était pour vous présenter Chambéry, et dire qu'en fait, bien que Chambéry ait été le chef de la commanderie, les possessions proprement de l'ordre sur Chambéry n'ont jamais été très très importantes. Et parmi les membres, vous verrez que les membres de Maurienne sont non plus pas des membres trop trop importants. Il n'y avait qu'un seul grand membre, enfin, Saint-Hélène du Lac est déjà un membre relativement important, il n'y avait qu'un seul grand membre qui était le membre d'Aquayeux, donc au Buget. Et qui avaient de grandes possessions de terres qui étaient mises à disposition et louées. Et par contre, ils avaient souvent des droits seigneuriaux qui étaient importants. Alors, je ne sais plus le temps, encore, voilà. On va rentrer dans le vif du sujet et surtout Saint-Michel de Maurienne. Je Est-ce que c'est facile? Artisanalement. Voilà. Là, vous aviez. Ah oui, c'est là-bas. Voilà. Ici, vous avez la représentation du décanat de la Rochette, à la partie basse du diocèse de Maurienne, que vous connaissez bien, puisque vous savez que c'est cette partie basse du diocèse de Maurienne qui, avant la création du diocèse, dépendait du diocèse de Grenoble, et en 580 a été donc fait partie du diocèse de Maurienne, et jusqu'au Concordat en 1801, où il passera cette partie-là donc ce qu'on appelait le décanat de la Rochette, hein, le décanat de Val-Pelouse, le décanat de la Rochette, il passera donc au diocèse de Chambéry. Mais donc, dans notre période, mettons, qui nous intéresse, donc vous avez bien sûr le décanat, et qui va, vous voyez bien, de la Rochette pratiquement à Chaboussette, hein, et qui ensuite remonte à Épelle. L'intérêt de toute cette partie-là était grand, bien sûr, puisque c'est le débouché de Montmélian, c'est toute la voie traditionnelle des Déroux, quoi, je veux dire par Maltaverne, Châteauneuf, Bourneuf, pour arriver à la Croix d'Épelle, mais c'est aussi la voie venant, passant par les tours de Montmailleur et arrivant ensuite donc aussi à la Rochette et ensuite par la vallée des Huiles et le Grand Cucheron. Je descendais sur la Corbière et arrivais à Épierre pour ensuite remonter le Mont-Cenis. Donc on est sur les routes, les grands chemins d'Italie. Hein, et c'est ici que vous avez, alors on va le voir après, se situe bien sûr le domaine de Sainte-Hélène du Lac et le château du Touvet. Mais dans un premier temps, on va rester, et je vais commencer par le haut, voilà, c'était. Tous ces éléments-là, c'était puisqu'on est sur les routes, alors on peut revenir sur les routes. Voilà. C'est un exemple d'un témoignage sur un périple d'Étienne Rigaud, qui était un archevêque de Rouen, qui a dû aller à Rome, et qui ensuite revient de Rome pour nous intéresser ici. Et vous voyez, les dates sont les dates du mois d'août. Complètement en bas à droite, vous avez Turin. Donc le 2 août, il est à Turin. Le 3, il est à Sant'Ambrogio. Le 4, il est à Suse. Il y reste quelque temps. Mais il repart de Suse le 8. Et il fait la traversée du Mont-Cenis. Donc un jour, du 8 à 9 août, si vous voulez. Il est à Termignon, puisque le chemin à l'époque, encore à ce moment-là, passe par Extravache et le petit Mont-Cenis. Termignon. Et ensuite, c'est pour vous donner les étapes principales, hein, qui étaient considérées pour le trajet sur Rome. Les étapes depuis Chambéry ou depuis Turin, donc, sont Suse, Termignon. On passe là le Mont-Cenis en un jour, hein, ça dépend des périodes. On s'arrête ensuite à Saint-Michel. On redescend ensuite jusqu'à Épelle, hein, on doit s'arrêter à Saint-Jean, mais en passant, les étapes c'est Épelle, et ensuite Chambéry. Hein. Là on est en 1254. Hein. Voilà, c'est la même chose pour Mathieu Paris, qui était un moine et qui faisait le. Voilà. Alors, le saut de plomb de l'ordre du temple, vous voyez, l'ordre du temple est représenté avec à l'avers deux cavaliers sur le même cheval, c'est pour symboliser la pauvreté, la fraternité, hein, des chevaliers du Christ. Et ça, c'est le saut du temple avec Sigillum Militum. Et vous avez Là, la représentation ici, 6 hommes, voyez, 8 hommes, 8. Et de l'autre côté, vous avez 2 templos Christi, hein, avec la représentation de la coupole du rocher, donc la coupole de Jérusalem, puisque les Templiers s'étaient installés, aussi bien ensuite que les Hospitaliers s'étaient installés dans le temple qui prenait pour le temple de Salomon, mais c'était la mosquée d'Omar, et ils dominaient le mur des Lamentations. Leur siège, le temple qu'ils ont été à Jérusalem, donc c'était ici. Vous avez une croix, voilà, une croix ancrée, mais c'est une croix de Templier de pierre ancrée, parce qu'elle représente donc chaque croix des ancres. Là, vous avez la représentation d'un Templier. Vous voyez, on n'est pas dans, dans la sobriété, hein, je veux dire, par rapport aux émissions de télévision. Hein. Donc, si vous voulez, les Templiers, c'est eux qui ont le manteau blanc, et qui ont donc la croix de gueule, et généralement elle est portée sur l'épaule ou sur le cœur. C'est une petite croix de gueule rouge, je veux dire, et ils ont leur lance, leur fanion, la croix, et le bouclier. Et ils n'ont pas des énormes, tout leur corps, immense croix. Là, c'est pour les représenter, vous voyez, c'est toujours avec leur manteau blanc. Alors, il y a différents degrés il y a les chevaliers, proprement dit, et ensuite, il y a donc les frères sergents et les frères chapelains. Et là, par contre, vous avez les hospitaliers ont un manteau noir, hein, et ils ont la croix aussi, qui est une croix, qui est la croix d'argent. Et par contre, ils sont autorisés, je le fais ici, ils sont autorisés pour la guerre à porter un surplis, une cotte, un jupon de combat en rouge, quoi, je veux dire, tout eux, leur cotte en rouge et la croix d'argent, quoi, hein. Tandis que les Templiers, ils sont en blanc et ils ont la croix de gueule, quoi. Alors, pour Saint-Michel, la première mention que l'on a de Saint-Michel, c'est donc cette fameuse, vous la voyez, voilà, le pape Lucius III défend aux Templiers de recevoir les dîmes de la paroisse de Saint-Michel, qui appartenait aux chanoines de la cathédrale de Saint-Jean de Maurienne. Donc vous voyez, c'est à l'occasion de conflits, en quelque sorte, que l'existence des Templiers à Saint-Michel de Maurienne est attestée en 1181. Mais je sais qu'il y a des discussions sur les dates à quelques jours près, mais on est dans la période. Et les Templiers, qui avaient bénéficié de beaucoup de dons, et certainement de dons de dîmes, mais c'était les dîmes détenues par des civils, quoi, je veux dire, hein, par des laïcs, qui leur ont fait don, mais en fait les dons, normalement, c'est les chanoines de la cathédrale de Saint-Jean, et qui avaient droit à ces dîmes, et le pape est obligé de taper sur les doigts des Templiers, en leur disant, touchez pas aux dîmes, puisqu'elles sont aux chanoines. Donc c'est quasiment notre première mention d'existence des Templiers en 1181, mais c'est assez énorme, hein, je veux dire. C'est pas, vous l'avez vu, il y a eu des membres qui étaient... Là c'est une mention, on ne sait pas véritablement quand est-ce qu'ils sont installés, quoi. Et là, vous avez quelque chose qui se lit assez mal. Je vais vous le lire. C'est ce dont je vous parlais, la saisie qui a été faite par le duc de Savoie, le comte de Savoie, le comte, monsieur, pardon, des biens donc du membre de Saint-Michel. Il est précisé, comte de Perronnet d'Albier, maître de Saint-Michel en Maurienne, tenant la maison du temple du dit Saint-Michel pour le comte de Savoie, des revenus et obventions des dits templiers. Et vous voyez que c'est pour la période du 24 juin 1308 au dernier janvier 1309. Donc ils ont été saisis en 1308 et alors ce compte, il est à l'état brut. Vous voyez la cote SA1204 aux archives départementales de la Savoie. Il n'a pas fait l'objet d'analyse ni de lecture, en quelque sorte. Je pense qu'il faudra qu'on demande au professeur Guiret de se consacrer à ça, parce que vous avez vu, c'est un simple petit rouleau de parchemin qui n'est pas gigantesque. Je crois qu'il est ici, je vous l'avais fait présenter. Ah non, il est après, déplié. Voilà, vous l'avez ici, assez mal, vous voyez, c'est aux archives, vous pouvez le commander et vous l'avez. Donc il est déplié, là, c'est un rouleau de parchemin, et c'est l'ensemble du compte pour les 6 mois de la période 1308-1309. 6-7 mois. Donc ça nous donnerait des éléments intéressants sur quelle était la réalité templière sur Saint-Michel. Donc ça reste un travail à faire. C'était pas connu, et c'est Félix Bernard qui en citait l'existence. Voilà. Alors, ensuite, oui, j'ai plusieurs partitions. Et ensuite, j'en arrivais bien sûr au Concile de Vienne, Christian Crépuscule des Templiers, puisque donc les Templiers donc, de Saint-Michel ont disparu en 1312, et leurs biens donc, ont été dévolus aux hospitaliers. Là, je vous ai mis un procès-verbal. Je vous ai mis non pas le procès-verbal de 1641, mais le procès-verbal de 1741. Donc, vous voyez, acte d'état des membres des mèches de possession de la chapelle et des biens appartenant à la ferme de Saint-Michel, dépendant de la commanderie de Savoie de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. C'est un procès-verbal de 5-6 pages qui donne et qui décrit les biens. Alors il n'y a plus qu'une pauvre chapelle, donc qui est bien sûr, vous le savez mieux que moi, à l'emplacement du temple. Hein. J'ai commencé par là, le temple. Et donc la description en 1641 des biens de Saint-Michel, c'est suivant. Voilà, chapelle Saint-Jean-Baptiste, prés, vignes, terres et rentes. Situé à 2 lieues en amont de Saint-Jean-de-Maurienne, juste après l'affreux étranglement du Pas du Roc, à l'entrée du large bassin de Saint-Michel, dans la plaine de l'Arc, proche du grand chemin, devançant, je cite, de 5 à 600 pas la vieille ville de Saint-Michel, blottie sur le coteau. Ce membre templier, pourtant très ancien, continue de résonner régulièrement à nos oreilles. La maison du temple est devenue, depuis les années 20 hein, du XXe siècle, l'usine du temple. Le plus ancien atelier décentralisé des usines Renault, puis Métal Temple, MT Technologies, vous connaissez mieux l'histoire que moi. Donc, c'est l'emplacement des Templiers donc, au bord du grand chemin, au bord de l'Arc, qui à l'époque n'était pas maintenu et qui était effectivement souvent qui mettait mal le monde. Hein. Alors, en 1641, le membre consiste en une chapelle dédiée à Saint-Jean-Baptiste, entourée d'un ensemble de quelques journaux de prés, vignes et terres labourables, avec un bois de haute futaie à valoir, et des cens sur les paroisses, donc des revenus féodaux, sur les paroisses d'Albane, Saint-André, Termignon, Valoir, Saint-Michel, Saint-Julien-Montigny et Saint-Martin-la-Porte. La chapelle fait l'objet d'une grande dévotion populaire car elle renferme un grand nombre de reliques. L'énumération qu'en donne le procès-verbal de visite remplit près d'une page. Une page de définition de reliques. Alors, les reliques, il y avait déjà aussi à l'époque des trafics de reliques. Hein, et puis, on en revenait, on en inventait. Voilà. Je ne parle pas des reliques sacrées de Saint-Jean-de-Maurienne. Mais dans une plus petite chapelle, vous voyez ce que je veux dire. Et là, le procès-verbal pratiquement contient une page de reliques. Je cite quelques-unes. Les reliques du sépulcre du Mont Calvaire, du cierge qui fut apporté par l'ange à la Vierge Marie le jour de la purification, je passe, de la côte de Saint-Jean-Baptiste, patron de la Ligue-Chapelle, des eaux de Saint-Sébastien, Saint-Blaise, des pierres desquelles Saint-Sylvestre fut lapidé. Vous voyez donc, il y a beaucoup de reliques, j'en passe. Au bout desquelles reliques est écrit qu'il y a indulgence de 14 000 ans. Donc, vous voyez, on est déjà dans une période 18e où là, les reliques ont une autre conception. Le tout dans une bourse de brocart. Voilà. Mais c'est assez précis, c'est assez intéressant. Il faudrait, pour les gens qui pourraient étudier ces choses-là. Il est certain que les croisades, surtout le sac de Constantinople de 1204, ont alimenté l'Occident encore saint. Les ordres militaires ont contribué à ces transferts pour accroître la sacralité de leur propre maison en Occident. Mais ils n'ont pas développé d'efforts notables pour valoriser les reliques qu'ils détenaient, observe Damien Carras, qui est un grand spécialiste d'une manière générale. Mais nous sommes dans le diocèse de Maurienne, et comme le rappelle Jean Prieur, je cite, hein, la fondation du diocèse de Maurienne est étroitement liée au culte des reliques de Saint Jean-Baptiste, dont l'histoire est assez complexe, entre Grégoire de Tours, Saint-Tigre, c'est pas ici, et Saint-Tex, c'est pas moi qui vais vous parler de tout ça ici. C'est à lui que la cité épiscopale doit son nom, Saint-Jean, et ses armoiries d'azur à la main droite bénissant d'argent. Alors le culte de Saint-Jean-Baptiste, c'est simplement pour vous faire observer, mais vous le savez bien, est important dans notre région. Les cathédrales d'Aoste, de Belley et de Turin lui sont dédiées. Les 20 panneaux de la chapelle de Vulmy, Bourg-Chavoris, racontent en images comment vers l'an 470, Saint Gras, évêque d'Aoste, a ramené de Palestine à Rome la tête de Saint-Jean-Baptiste, gardant pour Aoste la mâchoire. En Maurienne, encore aujourd'hui, à l'occasion de certaines fêtes, Saint-Jean fait du pain, on expose dans la cathédrale des reliques contenant les trois doigts de Saint-Jean-Baptiste. Alors, vous l'avez vu, la première mention de ce membre remonte à la bulle du 20 mai 1181. À l'été 1308, donc, il y a eu cette saisie, et on a le bien qui est ici, et le rouleau de... voilà. Voilà. Alors, aucun terrier de reconnaissance au profit de membres ne semble subsister dans les archives de l'ordre. On n'a pas d'archives très, très, très colossales. Par contre, des legs lui sont faits au XVe siècle par des membres de la grande famille maréchale, bien sûr. Ainsi, le 18 mars 1400, à la veille de partir pour Rome, Jean Maréchal, seigneur du Châtel de Saint-Michel, dans son testament, fait un legs à frère Michel Cochonny, chapelain, je cite, tant qu'il vivra dans la maison du temple de Saint-Michel. Donc, vous voyez, on est en 1400 ici, en 1400. Le 22 janvier 1476, c'est Rose Maréchal de Saint-Michel qui fait un legs au recteur du temple de Saint-Michel pour la réédification ou réparation du temple. Voilà les éléments qu'on peut avoir sur Saint-Michel. Alors, en descendant, la Croix des Pelles est un membre très, très pauvre, en quelque sorte, par ses reliefs. C'est une chapelle de la vraie croix, ruinée par les gens de guerre en 1641. Terre et prés et rentes, situées à 4 lieues du Touvet, à l'entrée de la vallée de la Maurienne, en face des tons, au pied de Montgilbert, sur le grand chemin de Chambéry à l'Italie. Ce membre ne consiste qu'en une petite chapelle dédiée sous le titre de la vraie croix, et qui n'est en fait qu'un oratoire entouré de 6 journaux de rente avec un bois au-dessus et des cens sur les paroisses d'Épelle, Éton, Montgilbert, Argentine et Hauteville. Les revenus seigneuriaux, en général, les membres en avaient souvent de manière relativement assez importante. Et ces revenus seigneuriaux, en fait, c'est puisque l'ordre, c'est un ordre religieux, donc au moment de la Révolution, ça passera donc, et on retrouvera donc à l'abolition des droits seigneuriaux, et on retrouvera donc l'ensemble des biens au titre de l'ordre de Malte qui existaient encore en 1780. Et puis, bien sûr, la dernière. Donc, ça, c'était le procès-verbal. Et l'autre mention dont je n'ai pas fait mention, c'était, mais on pourra y revenir, quelques commandeurs dont je vous parlerai très rapidement. Et en fait, je vais vous parler ensuite de Saint-Michel.
On a encore quelques temps.
Pas Saint-Michel, mais donc très rapidement, je vais vous revenir sur... du château du Touvet ou de la Besse, le superbe portail roman monumental d'une ancienne chapelle réduite en dépendance. Les visiteurs, dès de 1716, notaient déjà, nous sommes entrés par une porte fort ancienne et belle en arcade. Vous voyez, dans leur thème, c'était déjà... Alors, vous avez, voilà, vous avez cette représentation, qui est assez avec des arcs trilobés. Donc, c'est bien sûr roman. Vous avez le Saint-Élève du Lac, le château du Touvet, la présentation, la configuration, vous voyez le portail en bois, ici, en fait, on peut les photos sont très mauvaises, avec des chapiteaux qui subsistent encore. Voilà. Et ces chapiteaux, si vous voulez, Edmond Brocard en donne la description suivante. Cette chapelle Saint-Jean-Baptiste est couverte par une voûte en berceau, avec des arcs doubleaux reposant sur des colonnes engagées, avec des chapiteaux au décor floral. Son abside est en cul-de-four et le portail monumental muré et envoûté présente un tympan en plein cintre dans lequel s'inscrit un arc trilobé sans ornementation. Et conclut, nous connaissons les origines mortes de ces arcs trilobés importés au retour des croisades. Et dans le cas présent, par les Templiers, car du Touvet dépendait la maison de Chamousset. C'est donc la troisième maison qui a été séquestrée en 1308. En effet, ces vestiges du XIIe siècle témoignent d'une implantation templière ancienne et conséquente. Lors de l'albergement du 18 octobre 1637, peu de temps après le siège de Montmélian, il est encore évoqué de grandes masures et ruines de maisons de longtemps, composées d'un domaine utile de terres environnantes. On a environ quand même 18 journaux de terre encore au XVIIe siècle. 18 journaux, ça fait, divisé par 3, ça fait 6 hectares. Ainsi que les prés, précisément à Chamousset et à Saint-Pierre-de-Soucy, et d'un domaine direct assez considérable, consistant en dîmes sur le village de Touvet et sur la paroisse de la Croix de la Rochette. Le membre a un quart avec le curé, le prieur de l'abbaye du Béton, ce qui en dénote l'ancienneté. Donc vous voyez, c'est du XIIe siècle. Et en sens, sur Sainte-Hélène-du-Lac, et de nombreuses paroisses avoisinantes, Planès, La Chabanne, Montmélian, Chamousset, et même sur une paroisse sensiblement plus éloignée, sur Saint-Vital, dans le mandement de Tournon, mais ça c'est une autre histoire. Voilà. Alors pour Félix Bernard, le Touvet devait être au Moyen-Âge un lieu important, placé sur la ligne d'étape que s'était ménagée pour aller de France en Italie et en Orient l'ordre du Temple et son successeur l'ordre de l'Hôpital. Qu'est-ce qui a motivé la création d'une nouvelle maison templière si proche du Temple d'Avalon? On n'est pas loin du Temple d'Avalon, hein, de Pontcharrat. Sinon la volonté du comte de Savoie face au comte Dauphin d'avoir sa propre maison dans ses états, au débouché de son chef-lieu de comté, Montmélian, et sur la grande voie transalpine en développement par le col du Mont-Cenis. Le temple d'Avalon est sur la voie qui, depuis Valence, remonte la vallée de l'Isère, qu'on a vu tout à l'heure, hein, depuis puis par le pont de la Gage, Pontcharrat, la Chapelle Blanche emprunte la route de Montmailleur, par la Rochette, la vallée de l'Huile, et le col du Grand Cucheron, pour atteindre la Maurienne à Épierre, et poursuivre jusqu'au Mont-Cenis. Le Touvet, pour sa part, est à proximité de la grande route classique qui appelle le pont de Montmélian, passe par Coise, Maltaverne, pour atteindre les belles, remonter la vallée de l'Arme, avec l'étape Saint-Michel et Mont-Cenis. Voilà. Alors ces deux dernières étapes, hein, donc, constituent, comme je vous disais tout à l'heure, sur la route de... Alors, le temps passe, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de développer... c'est l'heure, hein, pour conclure. Je vous ai amené... j'ai fait une étude assez qui est tirée de tout ce que je vous dis, qui est ici, qui est paru dans des congrès, dans le congrès de Saint-Jean-Moriette, d'ailleurs, de 2016. J'ai dit tirer à part les personnes qui voudraient... approfondir les choses. J'aurais bien parlé d'un certain nombre de grands prieurs, de grands prieurs ou de commandeurs, de différentes familles de Maurienne. Bien sûr que je parlerai du grand prieur de la famille de la Chambre, qui était le grand prieur d'Auvergne, si vous voulez, mais c'était un prieur de cour, puisque là on est au XVIe siècle. Et de surveillant le premier Louis de la Chambre, donc grand prieur de cour, car familier de Catherine de Médicis, hein, pendant près de 30 ans, et il fut nommé en 1566. Et puis le second, mais qui n'a rien à voir, sinon tout à l'heure je vous ai présenté, c'est Georges de Sales, commandant des échelles, puis de Saint-Georges, qui devient un grand prieur en 1757, avant de décéder donc à Saint-Jean-de-Maurienne, et c'était le père Caporezzo, monsieur Caporezzo, qui m'avait présenté la plaque qui est en fonte dans la cathédrale de Saint-Jean de Maurienne. C'est la famille, c'est pas une famille maurienaise, c'est une famille de Sales, une famille savoyarde. Voilà. Alors, on n'a pas eu le temps de présenter aussi tout le cursus d'un chevalier classique, si vous voulez, mais il faut savoir que nos commandeurs ou nos chevaliers d'ici étaient en permanence, et c'est ça qu'il faut retenir, en transfert entre, je dirais, la Savoie, ou l'Occident, et la Terre Sainte, ou Rhodes, ou Malte. Et plusieurs prieurs ou commandeurs de Chambéry sont décédés à Malte parce que ils faisaient, entre guillemets, tout au moins pour les responsables, les mouvements, et tous les chevaliers partaient combattre. Et ensuite, à partir du XVIe siècle, c'était des combats maritimes. C'était la guerre de course, cette fois-ci la guerre contre les Turcs. Donc ça n'avait plus la guerre des croisades, mais c'était qui a perduré quand même pendant un certain temps, au XVIe ou XVIIe siècle. Et puis tout ça, bien sûr, a disparu. Tout ça pour vous dire que cela a représenté une grande opération qui perdure toujours, puisque l'ordre de Malte continue d'exister. Vous savez bien qu'il existe aujourd'hui encore par ses aspects caritatifs, hein, ses hôpitaux, et les maraudes pour aider les gens qui souffrent. Voilà. Mais c'est l'héritier des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, que vous avez bien compris, qui sont aussi les héritiers des Templiers.